Alors, le premier sujet, évidemment, santé mentale au sens large, suite à ta chronique de ce matin sur cet homme qui, malheureusement, s'est enlevé la vie, qui est allé chercher de l'aide, d'abord chez le médecin de famille, ensuite auprès d'un psychiatre à l'hôpital, puis il pensait bien rester, mais le psy a décidé de ne pas le garder.
Le psy a décidé de ne pas le garder et Jean-François Lucier, un peu plus d'une semaine après, a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a décidé d'en finir et s'est suicidé. Et moi, là-dedans, il y a... tu le sais, tu reçois des courriels du public, puis les gens nous racontent... Moi, c'est la même chose. Les gens nous racontent leurs problèmes avec les services sociaux, avec le système de santé. Dans ce cas-là, j'avais jamais eu affaire à un cas semblable. Et ce qui m'a troublé, c'est, tu sais... Moi, j'ai toujours pensé que si tu te présentes aux urgences et tu dis « J'ai un plan, là, puis je veux en finir », on va te prendre, on va te dire « Bien, monsieur, venez-vous-en, là. On va vous garder, on va vous soigner. » Au moins pour qu'on te permette de décompresser, de voir c'est quoi le problème que tu as. Moi, je pensais que ce signal-là, là, pour le système, c'était vraiment les drapeaux rouges partout. Et il semble que non. Donc ça, c'est ce qui me trouble. Puis l'autre affaire qui m'a troublé, c'est que, bon, il faut préciser, la sœur de Jean-François Lucier, Annie, était avec lui toute cette journée-là, de la visite au médecin de famille le matin jusqu'à la visite au psychiatre dans l'après-midi. Elle était là, assise à côté de lui. Et le médecin dit, écoutez, bon, quand Annie se met à insister, il dit, écoutez, il y a vraiment besoin d'aide immédiate. Bien, elle se fait répondre, bon, écoutez, je peux faire une requête pour un suivi en psychiatrie, là, mais il y a des listes d'attente. Bien, moi, ça me trouble d'entendre ça de la bouche d'un médecin. Est-ce que la pression, la gestion par liste d'attente s'est rendue que ça influence le jugement thérapeutique des médecins? On peut se poser la question.
Évidemment, il y a des... c'est troublant, ce cas-là. Il y a eu, en 1960, puis je m'en souviens, la désinstitutionnalisation. Et l'inquiétude que tout le monde avait... Parce que presque tout le monde a dans son entourage des gens qui souffrent d'une maladie mentale ou l'autre. Et souvent, ça va jusqu'à qu'est-ce qu'on fait, puis on appelle la police. Puis à cette époque-là, le dernier recours, c'était souvent ce qu'on appelait à ce moment-là l'asile, c'est-à-dire le recours à l'hôpital psychiatrique. Quand ils ont désinstitutionnalisé, je me souviens très bien que l'inquiétude générale des gens, c'était de dire « Ouais, mais là... » puis là, je m'excuse des termes, mais les fous sont en liberté. Et le fait est que bien des gens qui étaient hospitalisés se sont retrouvés, comme le dit le maire d'Alabaume, dans la ville, dans la cité, et sont devenus des itinérants, des gens littéralement perdus. Parce que les mesures de soutien qui auraient dû exister... ça a pris du temps avant qu'elle soit mise en place. Et à l'évidence, et le cas de ce matin est patent, il y a des services qu'on n'arrive pas à, qui n'ont pas remplacé ce qu'on appelait l'institutionnalisation. Est-ce qu'il faut recréer des lieux où les gens vont recevoir un encadrement réel, où il n'y aurait pas des cas d'horreur, mais que ça serait bien géré, peut-être? Ce qui a été dans l'esprit de la désinstitutionnalisation, c'est de dire, on va sortir les gens de lieux d'hôpitaux psychiatriques et on va rendre accessibles les services de psychiatrie dans l'ensemble des hôpitaux. Et la norme, c'était 10% des lits devront être consacrés aux gens qui, comme le monsieur dont tu parles ce matin, ont des problèmes urgents. À l'évidence, ce système-là ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les lits qui devraient être consacrés à ça, quand ils le sont dans les différents hôpitaux, et on voit qu'il y a des fermetures un peu partout dans la région de Québec, ces lits-là sont occupés d'une façon permanente, de telle sorte que les cas d'urgence sont référés à on ne sait pas qui. L'autre aspect... pour pouvoir traiter ces cas-là, c'est l'ensemble du milieu des institutions communautaires. Et je regardais ce matin sur Internet, et il y en a. Et tu mentionnes dans ton article un lieu qui s'appelle Lilo. Et Lilo, pour les gens de Laval, et c'est le cas de ce monsieur-là, en principe, c'est sa fonction première, c'est d'apporter de l'aide aux gens qui ont l'intention de se suicider. Et là, on ne sait pas pourquoi, c'est ce que tu mentionnes, ce que tu dis dans ton article, c'est ce service-là a dit... Écoutez, vous ne relevez pas de notre groupe. Et on ne sait pas pourquoi, mais visiblement, il y a probablement là aussi une absence de moyens.
Je ne veux pas lancer la roche à Lilo. On me le décrit comme une excellente ressource, hein, qui fait son travail. Mais moi, j'ai été content ce matin quand, dans la revue de presse, quand tu parlais de ce papier-là. Tu as mentionné le maire Labeaume à Québec qui a fait une sortie là-dessus. Et je pense que le discours sur la santé mentale doit sortir, d'une part, du cercle des gens qui sont directement touchés et du cercle des gens qui sont dans le réseau.
Le maire Labeaume, ce qu'il dit, là, en gros, c'est que, d'abord, ça l'inquiète, la présence de gens qui ont des problèmes psychiatriques dans les rues de la cité.
Oui.
Deuxièmement, comme administration municipale, il est prêt à fournir des ressources, c'est-à-dire des endroits pour héberger les gens puis leur assurer une sécurité puis un logement. Mais en même temps, le maire Labeaume est maire de Québec, il n'est pas le ministre de la Santé puis des services sociaux. Allez,
exact. Mais il y a quelque chose comme du leadership là-dedans, qui prennent la parole. Parce que les gens comme Annie Lucier, qui est la sœur de Jean-François Lucier, qui s'est suicidée, qui est venue me parler, les gens comme Mme Lucier, les proches de ces personnes-là qui sont aux prises avec de problèmes de santé mentale, sont épuisés. Après un événement semblable, c'est surhumain ce qu'elle a fait, de venir s'asseoir et de témoigner comme ça à visage découvert. Je veux dire, ces gens-là sont fatigués, à bout, en deuil, bien souvent, ne peuvent pas parler. Les gens dans le réseau, c'est un autre type de problème. Les gens dans le réseau, bien souvent, ils n'ont pas le droit de parler, bien souvent. Puis ceux qui ont le droit de parler, bien, sont surchargés aussi, ils n'ont pas le temps de le faire. Fait quelque chose comme du leadership dans ce que M. Labeaume fait, j'admire ça, je salue ça. Et on revient à l'argent aussi. Je sais qu'on n'aime pas ça entendre parler de ça, mais quand on désinstitutionnalise, quand on fait des virages ambulatoires, etc., etc., oui, c'est pour le bien-être du patient, oui, le patient est mieux à maison, mais c'est parce que ça coûte moins cher aussi. Ça coûte cher de garder quelqu'un. Ça coûte cher d'avoir des lits. Et c'est pour ça que tu as des listes d'attente. C'est pour ça que les lits sont une denrée rare en hôpital. Ça coûte cher.
Tu te souviens de l'affaire Magloire, le coroner Malouin, il y a 10 ans de ça, je pense, avait dit « Tout ce qui touche à la santé mentale, c'est un échec lamentable au Québec. » Ça fait 10 ans. Et l'autre affirmation majeure, c'est qu'il semble que dans les années qui viennent, il y a 20 % de la population, à cause du vieillissement, à cause des changements sociaux, à cause d'une jeunesse qui a plus de besoins peut-être, il y a 20 % de la population qui va avoir besoin que l'on traite sa maladie ou ses maladies mentales, quelles qu'elles soient. On sait que l'étendue est très vaste, là. Ça va de problèmes qui peuvent être relativement réglables à des problèmes extraordinaires qui mènent au suicide. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme fort, là, qui est lancé actuellement.
C'est un signal d'alarme fort, mais je vais répéter ce que j'ai écrit dans la chronique ce matin. On n'a pas de données qui nous permettent d'avoir un portrait d'ensemble. Puis ça, c'est un peu problématique. On est pris pour composer avec des cas qui sont un peu disparates. Tu n'as pas de données sur le nombre de personnes qui sont passées, disons, chez un psychiatre 2 semaines, 1 semaine, quelques jours avant de se suicider. Tu n'as pas ça.
Non.
Donc, tu peux toujours dire, si tu veux défendre le système, tu peux toujours dire, c'est une aberration et je n'ai pas de chiffres pour te contredire. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans ma messagerie aujourd'hui, j'ai plein de messages qui me disent « Moi aussi, j'ai vécu de quoi de ça. »
Mais j'allais dire, la question de base, là, comment ça se fait qu'il y a autant de gens, parce que ça, c'est en croissance, on le voit là par les volumes de prescriptions, des problèmes d'adaptation, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, puis de dépression grave. Comme... Oui. Il me semble qu'il y en a beaucoup. J'ai pas de réponse. Là. Moi, je fais un constat. Là.
Une personne sur 5.
Tabarouette, comment ça se fait?
Je sais pas.
Moi, je pense que c'est dur de vivre aujourd'hui, pour vrai. Puis, je peux pas comparer avec d'autres époques. J'ai pas vécu dans les années 40, pas vécu dans les années 70. Oui, j'ai vécu, mais j'étais pas conscient. Quand j'ai écrit sur la santé mentale, là, autour de la journée Belle cause pour la cause, il y a 2 ans, j'ai parlé à des experts et on me disait, c'est une image, là, OK, puis je veux pas simplifier, mais tu sais, à une époque, les gens se faisaient des bursites, les gens se blessaient le corps parce qu'ils travaillaient avec leur corps. T'arrivais à la maison, tu t'amenais pas le travail avec toi, généralement. Aujourd'hui, là, c'est ton cerveau qui est sollicité. Ton cerveau qui est sollicité pour travailler. T'amènes la job à la maison, etc. Ça prend... ça te taxe et ça te surtaxe. Et ça finit que... T'as pas le temps de te soigner aussi. Si t'as besoin de te soigner, là, t'as besoin d'avoir des maudites bonnes assurances pour prendre du temps et aller voir un psy. Ce qui ne vient pas, généralement, dans tous les régimes d'assurance collective. Fait que t'en es réduit à prendre des pilules.
On s'arrête là-dessus.
De la vie, quoi.
Ouais.
Texter au volant, est-ce que les policiers ont raison de, comme on dit, donner moins de tickets parce que le prix des amendes est élevé?
Ouais.
C'est ce qu'on a pu constater cette semaine. La métropolitaine, Marc.